Matin Première, Pascal Claude.
Il est 7h47, place à l'invité de la matinale, Romain Cornet. Ce matin, vous recevez Patricia Vendramin.
Patricia Vendramin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sociologie, vous êtes titulaire de la chaire qui se penche sur les questions liées au travail à l'UCL. Et on va le préciser tout de suite, ce n'est pas votre étude dont on parle, mais le Futuromètre RTBF le soir. C'est une étude qui porte sur quelque chose comme 2450 Belges. On les a interrogés sur leurs attentes par rapport au monde du travail. Et ce sont des résultats qu'on détaille ce matin dans les journaux. Un résultat que citait Cynthia Ezzarelli, c'est que 9 Belges sur 10 préfèrent un travail épanouissant à un emploi qui rapporte beaucoup. Elle disait, oui mais on répond ça, c'est de la politesse. Vous pensez que c'est pas sincère quand on affirme qu'on préfère un travail épanouissant à un travail qui rapporte beaucoup ?
Je pense que c'est exact, effectivement. L'attente d'épanouissement est importante dans le travail. Mais ce qu'il faudrait peut-être préciser, c'est un point important qui est bien mis en avant dans l'étude, mais c'est rappeler en fait quelles sont les attentes, il n'y a pas que celle-là, quelles sont les attentes liées au travail. Et il y en a 3 en fait, et ce n'est pas 9. Il y a 3 types d'attentes. La première, c'est le salaire et la sécurité. Il faut vivre, on travaille pour vivre. La deuxième, c'est le lien social, avoir des bonnes relations avec ses collègues, avec sa hiérarchie, être dans une bonne ambiance. Et la troisième, c'est l'épanouissement, la capacité de développement personnel, le sentiment d'utilité, la reconnaissance, donc tous ces aspects qui font partie du développement de la personne. Et ces 3 attentes, elles sont présentes dans le travail. Ce qui a changé, c'est l'importance qui a été prise par ce 3e aspect. Ça a toujours existé, même dans les siècles précédents, le souhait de s'épanouir dans son travail, mais c'était plutôt de l'ordre de l'idée et pas de la réalisation. C'était pas, le contexte n'était pas propice. Seuls les artistes ou des artisans pouvaient s'épanouir dans leur travail. Pour toutes les autres personnes, c'était pas possible. Et en fait, ce qui a changé depuis la moitié du siècle passé, c'est que les conditions ont permis que cet épanouissement puisse se réaliser. Quelles conditions ? À la moitié du siècle précédent, après les deux guerres, donc les taux de croissance ont commencé à exploser carrément. La protection sociale s'est développée, ce qui fait que la dimension de sécurité n'a plus été la seule dimension qui était liée au travail, de subvenir à ses besoins, et qu'en une fois devenait réalisable ce besoin d'épanouissement qui restait une idée jusque-là. Et il faut ajouter à ça aussi la croissance du niveau moyen d'éducation parmi les personnes. Donc il y a de plus en plus de personnes diplômées. Les niveaux d'éducation augmentent et donc du coup, ces attentes d'épanouissement ont pris beaucoup plus d'importance.
Alors 80% des sondés dans l'étude Futuromètre le soir RTBF disent qu'ils seraient prêts à sacrifier leur ambition professionnelle pour un travail qui leur offre une meilleure qualité de vie. Ça aussi c'est un aspect fort important, l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Oui. Ça aussi ça a évolué au fil du temps.
Ça a évolué aussi au fil du temps et ce qui a changé aussi dans le rapport au travail, c'est l'idée en fait que le travail ça reste toujours important et donc il ne faut pas se tromper et comprendre que rechercher plus d'épanouissement, un meilleur équilibre, ça veut dire qu'on prend une distance par rapport au travail et qui n'est plus important. Le travail ça reste toujours très important mais en même temps que d'autres choses, en même temps que la famille, que les engagements qu'on peut avoir, que les loisirs et en fait anciennement, donc on était plutôt dans une logique séquentielle. Les loisirs, c'était pour la retraite. Si on voulait se consacrer à sa famille, il fallait prendre distance par rapport au travail et prendre un travail à temps partiel ou se désengager du travail complètement pendant une certaine période. Ici, en fait, il y a des attentes à pouvoir mener ces plusieurs vies de front. Et donc, c'est pour ça que les problématiques de conciliation, travail, famille, sont extrêmement importantes parce qu'il faut aussi pouvoir trouver une harmonie, un équilibre entre un engagement important dans le travail, mais aussi la volonté de préserver, de pouvoir s'épanouir dans d'autres sphères qui ont du sens pour les personnes.
Et vous nous dites la valeur du travail, elle reste importante parce qu'on a des discours politiques, et je pense notamment à la campagne présidentielle française où on nous dit régulièrement il faut remettre le travail comme une valeur importante, un petit peu comme si elle avait perdu de son importance, comme si les jeunes étaient peut-être plus paresseux ou moins prêts à s'investir dans le travail. Ça, c'est faux ?
Mais ça, c'est faux. Le travail, ça reste toujours la valeur centrale dans nos sociétés qui sont tout à fait organisées autour du travail. Les droits, les devoirs qu'on a sont liés au travail. Toutes nos sociétés fonctionnent autour du travail, donc ça reste extrêmement important. Ça reste extrêmement important dans l'identité des personnes. Mais par contre, il y a quand même des choses qui changent et qui amènent à se questionner parfois par rapport à l'attitude de la jeunesse par rapport au travail. Ce qui change, c'est que on a des modèles féminins et masculins d'engagement dans le travail, dans les jeunes générations, qui ne sont plus exactement ceux des parents ou des générations précédentes. C'est-à-dire que les jeunes hommes, en particulier diplômés, s'engagent avec conviction dans leur travail, mais souhaitent aussi avoir du temps pour s'impliquer dans leur famille, plus que les générations qui les ont précédées. Donc ils veulent aussi se préserver un temps pour voir grandir leurs enfants, pour s'impliquer dans leur famille. Et d'un autre côté, les femmes, dont une sur deux jeunes femmes aujourd'hui est détentrice d'un diplôme d'études supérieures, ont aussi envie d'avoir une carrière professionnelle, de s'épanouir dans une vie professionnelle aussi, et s'engagent plus que leur mère ou que les générations précédentes dans le travail avec plus, avec plus d'ambition. En même temps, les contextes ont changé aussi et on a des configurations familiales où les deux partenaires, les deux conjoints sont en général engagés dans le travail, tous les deux à temps plein. On est dans des couples biactifs, comme disent les sociologues, et donc ça amène à prendre des compromis différents par rapport au travail. C'est très différent que quand on a un ménage où la femme est en retrait et l'homme se consacre en 100% à son travail et essaye de gagner le maximum pour subvenir aux besoins de sa famille.
Donc on a quand même un rapprochement entre les aspirations des jeunes hommes et des jeunes femmes. Il reste cependant quand même des différences. Est-ce que c'est pas malgré tout la femme qui va faire des sacrifices sur sa carrière professionnelle, ou ça, vous nous dites, c'est vraiment en train de changer?
Ce qu'on constate dans les études, c'est que quand le moment est venu de faire des sacrifices, de faire des choix, et c'est souvent lié à l'arrivée du premier enfant, ça va être plus souvent du côté de la femme que ces choix vont être faits, pour différentes raisons, parce qu'aussi le milieu professionnel n'est pas aussi accueillant qu'il pourrait l'être pour les jeunes parents, et donc il faut faire des compromis. La conciliation entre un travail qui est devenu de plus en plus exigeant, avec une flexibilité des horaires, de l'imprévisibilité, de la mobilité importante, et pas toujours compatible avec les horaires de crèche, d'école et les disponibilités de services en dehors du travail.
Alors, l'une des raisons pour lesquelles c'était intéressant de vous entendre ce matin, c'est que vous avez aussi réalisé une étude assez semblable qui porte sur les attentes, et particulièrement des jeunes, la génération Y, comme on dit, par rapport au travail. Est-ce que c'est une génération pour laquelle on peut vraiment déterminer des traits communs, ou bien est-ce que c'est plus compliqué que ça, finalement? Est-ce que, finalement, ça ne dépend pas de son niveau de qualification, de type de boulot qu'on peut avoir? On a des attentes plus ou moins importantes en termes d'apport d'enrichissement personnel par rapport au boulot.
En fait, c'est à la fois le fait c'est simple et compliqué. Appartenir à une génération, ça veut dire que l'on a grandi, que l'on a été éduqué dans un contexte spécifique, un contexte économique, historique, technologique, environnemental, qui est propre. Et ça, c'est commun à des cohortes d'âge qui ont grandi dans ces environnements-là et dont l'expérience du marché du travail, elle est très différente des générations qui les ont précédées et qui, eux, ont grandi dans des contextes différents, avec d'autres idées du marché du travail, d'autres idées de la répartition des rôles entre hommes et femmes, par exemple. Donc, ça veut dire que, en soi, effectivement, les générations ont des traits communs qui la distinguent les unes des autres, liés à ces éléments-là. Mais en même temps, il y a aussi parfois on peut retrouver aussi plus de points communs, je vais dire, entre des ouvriers, par exemple, ou des personnes qui appartiennent à la même catégorie socio-professionnelle, quel que soit leur âge, et des différences qui vont traverser les générations.
Alors le contexte, il est fondamentalement différent pour cette génération de jeunes travailleurs marqués par la crise. Et on le voit dans l'étude que c'est une inquiétude. pour beaucoup de gens d'ailleurs, hein, pas uniquement pour les jeunes, mais à peu près 60% des sondés estiment qu'ils ont peur de perdre leur boulot, par exemple. On sent bien que tous les discours qu'on a sur les restructurations, tout ce qu'on entend dans le contexte de restructuration, le dumping social, tout ça est vraiment perçu comme une menace importante. Cette crise, elle a modifié notre rapport au travail, vous pensez ?
Cette incertitude par rapport à la sécurité d'emploi, elle est tout d'abord génératrice de stress. Elle contribue à l'importance du stress que l'on mesure dans le travail. Hein. Il y a d'autres études aussi qui ont mesuré ça et où on a un tiers des salariés qui se déclarent stressés dans leur travail. Et un facteur explicatif, pas le seul, c'est aussi le sentiment d'insécurité qu'on peut avoir face à son propre emploi ou à un contexte qui n'est pas rassurant. On peut mesurer l'insécurité par rapport à l'emploi de deux manières, soit par rapport à sa propre crainte de perdre son emploi dans les prochains temps, ou par rapport à la confiance que l'on a en sa capacité d'en retrouver un autre si on était amené à le perdre. Et ça, c'est ce sentiment d'insécurité, il est plus répandu. Et il peut contribuer à une prise de distance, mais là je pèse beaucoup mes mots parce qu'on utilise aussi le terme de distance comme désengagement, comme indifférence, comme rapport instrumental au travail, mais à une forme de distance où finalement on va plus mettre toutes ses billes dans le même sac et on va voilà.
Alors, votre livre, coécrit il y a quelques années maintenant avec Dominique Méda, une sociologue française, propose aussi des pistes pour réinventer le travail, c'est le titre, et tenir davantage compte des aspirations des travailleurs. C'est un problème de quoi ? D'organisation, de valorisation des travailleurs ? Quelles sont les pistes essentielles à retenir ?
Mais il y a à la fois une posture et des pistes. Une première, c'est de redécouvrir le travail réel derrière une gestion par les chiffres que l'on a de l'emploi et du travail. Donc redécouvrir le travail réel, hein, c'est quoi le travail réel derrière les chiffres que l'on a, et comprendre alors peut-être mieux quels sont les mots contemporains du travail, comme le burn-out qui explose ou d'autres circuits. C'est aussi entendre les attentes des jeunes, en particulier des femmes, par rapport au travail. Donc elles s'expriment, ces attentes-là. Donc. Et alors un élément très important, donc, c'est de redonner du sens au travail. Donc c'est la question du sens et de la reconnaissance qui est vraiment essentielle pour les personnes.
Ça passe par plus d'autonomie, par exemple, pour les travailleurs ?
L'autonomie contribue au sens du travail, la reconnaissance et la qualité du travail qui a été éclipsée par rapport aux problématiques récurrentes d'emploi. Et l'emploi, c'est pas la même chose que le travail.
Est-ce qu'il faut partager différemment le travail pour peut-être répondre à un souci d'un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle ?
C'est effectivement une question qui mérite véritablement d'être posée, surtout avec cette tension entre à la fois des personnes qui travaillent et qui s'épuisent dans leur travail, et puis des personnes qui cherchent désespérément à trouver un emploi.
Il faut redonner du sens au travail, c'est ce que vous nous disiez il y a quelques instants. Merci beaucoup Patricia Vendramin d'avoir été des nôtres ce matin. Je rappelle que vous êtes docteur en sociologie à l'UCL et co-auteur notamment de Réinventer le travail. Merci à vous et bonne journée. Merci.